Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Est-ce que comme moi, vous êtes souvent à la recherche de livres inclusifs pour vos enfants? Des livres où le personnage principal pourrait leur ressembler? Des livres avec des personnages racisés? Des livres loin des stéréotypes? Des livres non genrés? Si oui, vous savez qu'habituellement, ça nous prend beaucoup de temps d'aller de librairie en librairie pour essayer de trouver des livres inclusifs afin d'étayer notre bibliothèque et la diversifier. Alors, quand j'ai appris que les enfants du bruit de l'odeur allaient ouvrir une boutique en ligne avec une sélection de livres inclusifs pour les enfants, adolescents et les adultes, que Ulrich et Priska ont pris le temps de choisir, de lire, de vérifier les contenus des livres pour ne pas que nous achetions des livres problématiques avec des imaginaires d'un autre siècle, je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage. Je peux quand même pas garder cette bonne nouvelle pour moi. Alors rendez-vous sur la boutique en ligne, lesenfantsdubruitdeleodeur.com.
Quand je serai grande, je serai astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai appris.
Lors de cet épisode, vous entendrez le mot Wen pour Wenzhou et Teochew. Les Wenzhou viennent de la région sud de la Chine, à environ 400 km sous Shanghai. Les personnes originaires de cette région sont arrivées en France pendant la Première Guerre mondiale. Environ 100 000 Chinois de Wenzhou ont été recrutés par la France pour participer à la Première Guerre mondiale. La fin de la guerre, certaines personnes sont restées et se sont installées dans le 3e arrondissement de Paris. Ils ont ensuite fait venir leur famille pour les rejoindre. Les Teochew, aussi appelés Shaozhou, sont des Chinois du sud-est de la Chine qui sont partis s'installer il y a plus de 4 siècles dans les pays tels que le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Ces pays étaient avant appelés Indochine. Les personnes Teochew parlaient donc français à leur arrivée en France dans les années 1970. Vous allez comprendre pourquoi cet aparté. Parce que pour le 2e épisode de la saison 2, nous avons traversé l'Atlantique à la rencontre d'Isabelle. Isabelle est une femme française née à Paris de parents d'origine chinoise. De Wenzhou du côté de sa mère et de Teochew du côté de son père. Elle nous parle de son enfance, paisible et insouciante, dans le 18e arrondissement de Paris. Puis de son déménagement pour une petite ville près de Chartres et de la période douloureuse qui débute lors de son entrée au collège. De ce racisme anti-asiatique auquel elle a dû faire face, des stéréotypes et des préjugés trop lourds à porter pour l'enfant qu'elle était. Elle a donc grandi en minimisant le racisme dont elle était victime. Elle nous parle aussi de cette pudeur et des différentes façons de se dire « je t'aime » entre sa mère et elle. Et cette pudeur des sentiments, nous l'avons retrouvée dans tous les épisodes avec toutes les personnes que nous avions interviewées jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas qu'une façon de se dire « je t'aime ». Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Isabelle.
Salut.
Tu vas bien?
Ouais, ça va très bien. Bah, merci beaucoup de m'avoir invitée à parler un peu aujourd'hui.
Bah écoute, c'est moi qui te remercie. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Et puis en plus, tu as quand même fait pas mal de petites prouesses techniques pour pouvoir être avec nous là aujourd'hui de là où tu es. Alors, je vais te laisser te présenter aux personnes qui nous écoutent. Donc, à toi la parole, vas-y.
Je m'appelle Isabelle. Je vis... En fait, je suis française. Je suis née à Paris. Oui. De parents d'origine asiatique. Mm-hmm. Et maintenant, je vis aux États-Unis, en fait. Et du coup, mes parents, en fait, ils viennent d'endroits différents d'Asie. Oui. Ma mère, elle vient de Chine, mm-hmm. Vers la région de Shanghai. Mm-hmm. Et mon père vient du Cambodge, en fait, de l'ancienne Indochine. Mm-hmm. Et mais il a des origines chinoises et vietnamiennes.
D'accord.
Donc voilà, donc c'est un petit mix de différentes origines et ils se sont rencontrés à Paris.
D'accord. Enfin, c'est pas qu'un petit mix là, quand même.
Ouais. C'est vrai que du point de vue, je sais pas, pour moi, du point de vue occidental ou du point de vue français, mm-hmm. Ça a pas l'air très diversifié. Oui. Mais c'est vrai que pour moi, récemment, ouais, je me suis rendu compte que. Que oui, c'est plus compliqué que juste être chinois ou juste au... même moi je me sens pas cambodgienne du tout alors que mon père grandit au Cambodge etc. Donc c'est ouais c'est très compliqué en fait, les origines.
D'accord. Et du coup tes parents se sont rencontrés sur Paris tu disais hein?
Oui, alors je pense qu'ils se sont rencontrés sur Paris peut-être vers la fin des années 70 ou début des années 80. Et en fait, je crois qu'à la base... Donc, en gros, mon père, il vient de l'ancienne Indochine, du Cambodge. Et il est arrivé en France sur une bourse quand il y avait encore l'Indochine, en fait.
D'accord.
Une bourse...
d'études.
Pour faire des études. Il parlait français aussi, vu qu'il avait appris le français là-bas. Et en fait, au moment où il est arrivé, il y a eu la guerre qui est arrivée. Et du coup, tout a été coupé et il est arrivé sans rien du tout, quoi. Et après la guerre, en fait, le reste de la famille qui a survécu est allée en Australie.
D'accord.
Donc, en gros, j'ai aussi de la famille en Australie.
Donc, à l'autre bout du monde. Voilà. Et c'est une famille que tu as déjà vue, tu as déjà rencontrée, que tu vois régulièrement?
Oui, oui. Alors, depuis qu'on était petits, en fait, on a eu l'occasion d'aller faire des voyages en Australie. Et ma grand-mère qui venait nous voir, mais c'était... bien longtemps après la guerre. Et du coup, oui, on est en contact avec nos cousins aussi. Donc, ça fait un peu bizarre parce que, en gros, quand on les a vus, je crois que la première fois que mes cousins, il y en a un des deux cousins qui est passé en France, on pouvait même pas communiquer parce que lui, il parlait en anglais et nous, on parlait en français. Ouais. Et du côté de ma mère, en fait, c'est un peu compliqué aussi. Donc, elle vient de la région de Shanghai. En fait, il y a la communauté des Wen, je sais pas trop si tu connais.
Oui, oui, un peu, oui.
En France, ouais, les différentes communautés. Donc, en gros, mon père, vu qu'il a des origines chinoises, même s'il est né au Cambodge, en fait, c'est de la communauté des Tetsu. Donc, c'est la deuxième communauté en France. Et ma mère, elle est de la communauté Wen. Et elle est venue, en fait... c'est un peu compliqué. En gros, sa famille l'a envoyée à Amsterdam au début pour un mariage arrangé. Et en fait, la belle-mère... l'a jetée dehors parce qu'elle l'aimait pas. Et du coup, après, elle est restée en Europe et puis elle a voyagé un peu. Et je pense que c'est comme ça qu'elle a rencontré mon père. Mais après, dans les détails, je sais pas du tout.
D'accord. Donc, elle venait d'une bonne famille si elle a voyagé comme
Je sais pas du tout parce...
Non.
Ouais, je sais pas du tout à l'époque comment c'était parce qu'il y avait déjà eu la révolution en Chine. Donc, avant la révolution, c'était une bonne famille, ils étaient assez riches, mais après, on leur a tout enlevé. Donc, du coup, je sais pas trop dans les détails.
D'accord. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, c'était comment ton enfance? Tu étais comment?
Je pense que ça a beaucoup changé en fonction des lieux où j'ai vécu. Donc, nous, on est nés à Paris. Oui. Et on a grandi notre petite enfance maternelle, primaire, dans le 18e arrondissement à Paris. Et du coup, on était dans une école où il y avait des personnes d'origine différente. Ouais. Et du coup, pour moi, ce que je me souviens, c'était que il n'y avait pas de questions à se poser sur ce genre de situation. Donc tout le monde, on était tous amis et tout. Et puis, tout se passait bien, quoi. Je me souviens aussi qu'on allait souvent... Tout le monde était un peu dans le même quartier. Nos parents nous laissaient sortir.
Ça faisait un peu petit village, en fait, ton petit quartier.
Oui, voilà. voilà. Et du coup, on allait chez les amis chez les amis. T'avais les parents qui nous gardaient, etc. Donc, c'était très... Je sais pas, c'était très amical. Je me rappelle, j'ai des très bons souvenirs quoi de cette période. Et ensuite, en fait, mes parents ont déménagé dans une ville limitrophe à Chartres quand j'avais à peu près 10 ans.
D'accord.
Et là, je me souviens, c'était la première fois où je me suis sentie super triste en fait parce qu'en fait, on quittait tous nos amis. C'était assez difficile. Et on est arrivé dans un endroit où l'école était vachement plus petite. La plupart des enfants étaient des enfants français blancs. Y a une copine qui m'a raconté plus tard que, en gros, il y a le directeur de l'école qui était venu parler aux enfants des classes où on aurait atterri.
Oui, ça c'était en école primaire.
Voilà, cette dernière année où j'ai eu des bons souvenirs. Mm-hmm. Puis en gros, il y avait des petits Chinois qui arrivaient de Paris. Mm-hmm. Et que, bah oui, ils nous ressemblent pas, etc. Mais qu'il fallait pas se moquer de nous et tout. Et moi, enfin, je suis pas à 100% sûre, mais quand même, je pense que... en tout cas, de mon expérience, je sais pas trop l'expérience de mes frères et sœurs. Moi, j'ai jamais eu d'expérience raciste cette année-là. Et je l'attribue au fait que le directeur de l'école a une discussion avec les enfants. Et finalement, j'ai aussi de très bons souvenirs. Mm-hmm. J'ai des amis que j'ai encore aujourd'hui.
D'accord. T'as tissé des liens forts, quoi, pendant cette période
ouais,
à Chartres.
Ouais, qu'on a gardé au fil des années. Mm-hmm. Mais c'est en arrivant au collège que là, on a commencé à avoir des problèmes de discrimination. Parce que, peut-être parce que le collège est plus grand. Mmh. Il était plus grand et il y avait des gens qui venaient d'autres petits villages, en fait.
Ouais, autour.
Ouais.
Mais c'était toujours dans le même village ou pas, ton collège, que ton école primaire
hein? C'était pas un village, c'était une petite ville.
C'était une petite ville, d'accord.
Ouais, c'était dans la même ville, mais au collège, par contre, moi, je me souviens, on était quatre, en fait, mm-hmm. frères et sœurs, et du coup, on était les quatre petits chinois du collège, quoi. Mm-hmm. Donc là, ça commençait à devenir plus compliqué, plus des petits-enfants qui venaient de villages encore plus petits, donc ils n'avaient jamais vu,
De personnes asiatiques.
Ouais, d'accord. Même d'autres enfants que des blancs, quoi.
Mais attends, je me permets de t'arrêter deux secondes. C'était en quelle époque, ça, du coup
Donc ça, c'était en plein milieu des années 90, ça.
Ouais.
Et du coup, donc là, c'est là où ça a commencé. Moi, c'était dès le début, mm-hmm. dans ma classe, il y avait un petit garçon qui, il a juste décidé de se moquer de moi tout le temps. Il me disait, ouais, tête de citron, tout le temps. Il faisait les yeux, enfin, tous ces trucs comme ça. Et c'est vrai que, je pense que... Moi, franchement, c'est... Au collège, ça s'est vraiment dégradé en termes de... Parce que moi, je me souviens, j'étais une petite fille enjouée. Enfin, j'étais un petit peu timide, mais à partir du collège, je me suis renfermée, quoi. C'était particulièrement ce petit garçon, je me souviens, qui se moquait, mais bon, après...
Mmh. Tu me parlais aussi d'un incident qui t'était arrivé, en fait, à ton frère et à toi, et que tu avais été, par la suite, convoquée par la conseillère d'orientation.
Ah oui. Alors, en gros, quand on était au collège, ma sœur, je sais pas trop, parce qu'elle m'a jamais vraiment raconté si elle avait eu des moqueries. Moi, je sais, j'avais tout le temps des moqueries, surtout de ce petit garçon, mais je disais rien. Mm-hmm. Alors que mes frères, eux, dès qu'ils avaient des moqueries, en fait, ils se bagarraient mm-hmm. avec les enfants, quoi, les gens de la classe. Et du coup, ils essayaient de se défendre, et du coup, il y avait tout le temps un peu de bagarre dans la cour, etc. Et moi, je me souviens que j'avais été convoquée par la CPE un jour mm-hmm. par rapport à moi, où genre, elle avait entendu dire, mais je sais pas par qui, qu'il y avait ce garçon dans ma classe qui m'embêtait tout le temps et qui... Mmh. Elle disait pas ouais qu'il disait des propos racistes, elle disait juste ouais qu'il m'embêtait et tout. Mmh. Moi je me souviens juste, je crois que je me souviens d'avoir juste confirmé, mais
sans plus, t'avais pas voulu relever les incidents.
Je me souviens pas trop, tu sais, qu'ils ont essayé de résoudre le problème de manière pratique, etc. Mmh. Et plus tard, ma sœur m'a raconté, donc il y a pas si longtemps que ça, qu'elle elle aussi avait été convoquée par la CPE. Donc, à l'époque, nous, on savait pas. Hein. Et en fait, c'était par rapport à mes frères qui se bagarraient et que, en gros, la CPE demandait à ma sœur d'avoir une discussion avec mes frères pour qu'ils arrêtent de créer les bagarres. Mmh. Et en gros, c'est en gros pour qu'ils arrêtent de se défendre, quoi. Mmh. En fait, pour qu'ils arrêtent de créer des problèmes.
Oui. Alors que personne sortait des trucs racistes sur eux se défendaient. Les adultes ne faisaient rien pour arrêter ça. Et c'était eux le problème, en fait, à la fin.
Voilà. C'est assez problématique, quoi, mm-hmm. ce genre de choses. Et ils demandent à des enfants de 11-12 ans...
D'aller régler ça.
Voilà. Génial. Il y avait beaucoup de choses, par exemple... je sais pas si c'était des moqueries directes, mais par exemple, le fait que on avait... comme par hasard, mes frères et sœurs et moi, on avait tout le temps des bonnes notes... Mm-hmm. Et je sais pas si c'était des facilités du fait qu'on était à Paris avant mm-hmm. ou quoi, enfin... Et je suis persuadée que c'est pas lié au fait qu'on était asiatique.
Oui, oui.
Et du coup, moi, on me ramenait à ça, en fait. J'étais l'intello parce que j'étais asiatique. Donc c'était comme si c'était un truc inné pour nous Alors que, enfin, je suis sûre que non, quoi. Mais le truc, c'est que moi, je pense qu'à l'époque, je le croyais aussi. Tellement D'accord. que, vu qu'on était les seuls, enfin, on était les seuls asiatiques dans le collège, on avait des bonnes notes. Mm-hmm. Donc, je sais pas, j'ai l'impression comme si j'étais rentrée un peu dans oui. le jeu, quoi.
Le stéréotype.
Ouais.
Voilà. Ouais, t'avais pris le stéréotype pour toi, quoi.
Ouais, voilà. Donc, du coup, moi, j'ai pas essayé de casser le stéréotype. Donc, c'était en 6e ou en 5e, je sais plus. Donc, forcément, il y avait un prof de maths. Je pense qu'il m'aimait bien parce que j'avais eu des bonnes notes.
Oui.
Et un jour, donc, il mettait genre des 19, des 20 et tout. Mm-hmm. Et un jour, j'ai eu un 16 sur 20.
Oui.
J'ai eu un 16 sur 20. Il m'a mis insuffisant sur mon papier, ouais. sur ma copie de contrôle. Et j'étais traumatisée parce qu'en fait, je comprenais pas pourquoi moi, j'étais traitée
différemment des autres, parce que 16, ouais. c'est quand même une super note.
Bah
et
ouais.
Du coup, t'avais la pression quand même sur tes épaules, parce qu'il en attendait beaucoup plus de toi, sous prétexte que t'étais ouais. asiatique, quoi.
Je sais pas si c'était parce que j'étais asiatique, mais franchement, on peut penser ça, quoi. Mm-hmm. Donc, du coup, des petits détails comme ça, petit à petit, en fait, ça construit ce que tu vas penser de toi. Mm-hmm. Et
ce que tu attends de toi-même aussi, non?
Ouais, ouais, tes propres attentes. Donc, c'est vrai que moi, maintenant, vu que j'ai des attentes très hautes de moi-même, mm-hmm. du coup, je suis jamais... En fait, je suis jamais contente de moi. J'ai toujours l'impression que je fais pas assez.
D'accord. Mais ça doit être super lourd à porter. Enfin, surtout quand t'es une enfant, de se dire, tu dois toujours être la meilleure, tu dois toujours avoir des sacrées notes, tu dois être forte, bonne. D'un côté, tu vis du racisme, et puis d'un autre côté, c'est aussi c'est un stéréotype.
Ouais.
Je sais pas si on peut vraiment dire ça positif, parce que moi, je trouve pas ça très positif, en fait, de mettre la pression sur un enfant.
Ouais, ouais, parce que ça reste un stéréotype. Exactement. Et ça affecte aussi l'enfant.
Exactement.
Après, c'est vrai que j'ai pas à me plaindre. Enfin, après, c'est encore tous ces problèmes de... Mmh. Oui, les Asiatiques ne devraient pas se plaindre parce qu'ils vivent pas autant de racisme. Mais c'est juste des types de racisme différents qui fait que, il est là, le racisme, en fait, et ça affecte les gens. Et dans la communauté asiatique, je pense que, c'est normal. Enfin, on n'en parle pas, quoi, de ce genre de choses. Ouais. Donc, moi, franchement, le collège, ça m'a un peu... Ouais, c'était compliqué parce que en fait, j'ai commencé à vachement complexer sur donc pour les notes, je pense que j'avais un peu j'avais un peu juste décidé bon, je suis dans le stéréotype,
oui.
mais pour le physique en fait, j'ai été très complexée parce qu'en fait j'avais les yeux bridés, etc. Moi maintenant aujourd'hui franchement, j'aime beaucoup mon visage, je m'en fiche. Mais à l'époque, c'est vrai que quand on dit les yeux bridés, déjà le mot, c'est pas génial.
Péjoratif, oui.
Ouais, maintenant, mes yeux, je les vois pas bridés. Bon, j'ai d'autres mots pour les qualifier. Moi, je dis j'ai les yeux monolides. Ça vient du mot anglais. Mais tous les Asiatiques n'ont pas les mêmes yeux que moi.
Bah,
donc, encore une fois, c'est... Tu vois, bridé, ça...
Ouais. Puis surtout, le terme bridé en France, ça y a aussi une signification.
C'est péjoratif.
Quoi.
Voilà. Ouais. Je me souviens quand j'étais au collège. En fait, à l'époque, on disait pas les mots genre blanc ou des choses comme ça. On disait si j'étais française. Parce que moi, je m'en souviens, mes parents, quand on parlait de, des blancs, en fait, ils disaient les français.
Ouais. Mais après, tes parents, c'est peut-être un peu plus normal parce que tu vois, eux, ils étaient arrivés en France. Mais toi qui étais française.
Ouais, c'est un peu bizarre, parce que même je m'en souviens, donc j'ai aussi quelques cousins qui étaient arrivés en France après, donc du côté de ma mère, et puis quand on parlait entre cousins, on disait, les blancs, on disait les français.
Ouais, ouais mais nous aussi.
Et, du coup, c'est un peu bizarre, parce que après, c'est au fur et à mesure des années, en fait, tu dis, ouais, mais on sait qu'on n'est pas considéré de la même manière, même si on est français, mais on peut pas tu vois ce que je veux dire?
Mais je vois tout à fait. Ouais, et du coup, tu te questionnes. On a aussi appris à intérioriser que être blanc, c'était être français de toute façon sans jamais être questionné.
Ouais. Enfin, aussi le fait d'être asiatique. Donc, nous, dans la famille, on parlait pas du tout d'émotions, des choses comme ça. Donc, déjà, en termes de vocabulaire, c'était pas facile de parler aux parents si ça allait pas bien. Des choses comme ça, donc moi je me souviens encore au collège cette époque, si j'allais pas bien, je l'ai jamais formulé à mes parents, quoi.
D'accord.
Et aussi dans ma famille, donc moi enfin, je vais pas dire que c'est pareil chez tous les Asiatiques, mais en tout cas, dans ma famille, on n'avait pas non plus les signes d'affection, en fait, les gestes d'affection, comme, enfin, l'occidental, quoi. Genre, moi, par exemple, ma sœur, c'est que récemment, il y a quelques années seulement, qu'on était déjà adultes, qu'on a commencé à se faire la bise. Et avant ça, on se faisait jamais la bise. On est super proches avec ma sœur. Et à chaque fois que je lui fais la bise, en fait, je me sens trop bizarre. Mais c'est trop bizarre de toucher ma sœur.
C'est comme quand tu dis, enfin, je sais pas toi, mais tu dis je t'aime à ta mère. Enfin, moi, c'était quelque chose de... C'était difficile de dire je t'aime à ma mère, c'est pas que je l'aimais pas, c'est juste que c'était pas très, très naturel en fait, non? Je sais pas toi.
Ouais, bah moi j'ai jamais dit.
Tu vois?
Parce que je pense que ça serait trop bizarre et je saurais même pas dans quelle langue lui dire parce qu'en fait elle parle pas très bien français. Et moi, on parle un peu chinois, mais le mandarin, mais pour moi, il y a, je pense, de le dire en chinois. Bah c'est ça, les Chinois se les disent pas entre eux, donc ça serait trop bizarre. Et du coup, il y a d'autres signes d'affection, en fait.
Tout à fait.
Voilà, par exemple, moi, ma mère, c'est limite énervant. À chaque fois que je passe en France, elle me ramène tous les fruits coupés et tout, alors j'ai pas faim, enfin, des trucs comme ça. Des fois, c'est un peu agaçant, mais en fait, c'est sa manière de...
Ouais, de dire qu'elle tient à toi, qu'elle est contente de te voir.
Ouais, voilà.
Donc du coup, tu n'as jamais parlé des blessures que tu aurais pu avoir enfant liées au racisme au sein de l'école. Tu n'as jamais parlé de ça.
Jamais, jamais, et même pas aujourd'hui. Et je pense que dans ma famille, la seule personne avec qui j'ai parlé de ça, c'est ma sœur. Et juste parce que ben là, ça fait environ deux ans que j'ai beaucoup réfléchi et j'ai commencé à lire beaucoup sur les problèmes de racisme systémique. Genre, par exemple, ce concept, je connaissais même pas il y a deux ans. Le racisme systémique. Et du coup, je commençais à en parler à ma sœur.
Tu dis que t'en as pas beaucoup parlé et tout ça, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui tu en parles à ta sœur de ça? C'est parce qu'elle aussi, enfin, pourquoi?
En fait, ma sœur, donc, elle a un enfant et là, il a 5 ans. Lui, en fait, il est né, son père, il est à moitié bolivien et français. Et du coup, en fait, les traits de mon neveu, ils sont quand même plus asiatiques parce que le père, il a les cheveux foncés, très noirs, etc. Et en fait, ma sœur, elle a vécu quelques expériences avec la crèche, etc. Que ben moi, j'ai identifié comme raciste. Donc en gros, on a commencé à parler de ça. C'est comme ça qu'on a commencé à parler des choses du racisme, en fait.
Wow.
Ouais.
Et il est tout petit, à quel âge?
Là, il a 5 ans.
Qu'est-ce qui a déclenché en fait cet intérêt pour le racisme systémique? Est-ce que c'est le fait que tu es partie de France ou ça s'est passé comment?
Ah oui, alors, du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis partie de France il y a environ... Il y a 10 ans déjà. Et en fait, même si j'avais pas tous ces concepts et que j'avais pas lu par rapport, tu vois, tout le racisme au niveau sociologique, des choses comme ça, en fait, j'ai suis rendu compte d'une différence, c'est que ben dès que je suis partie, parce qu'en fait, quand je vivais en France et même à Paris, pour moi c'était si je marche toute seule dans la rue ou enfin que je suis pas avec des amis blancs, j'aurais tout le temps une remarque. Au moins une ou deux fois par semaine, quoi. C'était mon habitude. En fait, je savais qu'il y aurait un truc. Et bien sûr, entre amis, les petites blagues, voilà. Donc, on n'en parle pas.
C'est le pire, parfois. Non, mais si, parce que c'est important quand même, je trouve, de se rendre un peu compte de nos vécus, qu'on doit gérer tout ça tout le temps. Comme tu dis, quand tu sors dehors, des inconnus, et même parfois, les personnes qui te sont chères, qui sont proches, quoi.
Ouais, ouais. Et je pense qu'à l'époque, moi, j'étais, je sais pas, je pense que je minimisais ça, les remarques racistes d'amis, parce que j'étais en mode, oui, mais ils m'aiment bien, donc c'est de la bonne intention.
Et t'as peur de les
donc
perdre
c'est
aussi.
Pas si grave. Ah oui, ah ouais. Et ouais, donc pour moi, c'était surtout dans la rue, que c'était, j'ai tout le temps été un peu sur mes gardes, etc. Et en bougeant, en fait, la première fois que je suis partie aux États-Unis, en fait, je suis allée à New York. Donc, c'était une très grande ville. J'ai vécu là-bas pendant 4 ans. Et là, tout d'un coup, toutes les remarques racistes sont parties. En fait, dans la rue,
personne.
Les gens, ils s'en fichent. Ils m'ont pas te fixé. Ah oui, il y a aussi fixer les gens. Même à Paris, tout le temps des gens qui te fixent quand... Peu importe, tu croises des gens. Et le pire, c'est qu'après, t'as l'impression que t'es parano. Mm. Mais en fait, c'est tellement consistant que bah, c'est peut-être ça, en fait.
Oui, et puis de pas en parler avec d'autres personnes, ça fait que t'as ouais. vraiment l'impression que c'est toi le problème, quoi. Parce que si tu parles pas de ce racisme avec ta famille, tes frères et sœurs, avec tes parents ou d'autres copines qui peuvent peut-être ressentir la même chose, à la fin, en fait, si on confronte pas un petit peu nos vécus, si on ne parle pas de nos vécus, on a l'impression que c'est nous le problème.
Carrément, ouais. Je pense, au fond de moi, je savais, hein, que c'était parce que j'étais asiatique, mais à chaque fois, après, tu dis, oh, j'ai un truc sur le visage. En gros, ça m'a fait un gros choc en termes de, vu que je m'étais habituée et je m'étais résignée que, bah, c'est comme ça, vu que je suis enfant d'immigré, c'est comme ça. Et ensuite, je suis allée aux États-Unis, et là, tout d'un coup, bah, même si c'est un, pays où bah, il y a aussi des et il y a aussi du racisme et tout, ben, moi, en tout cas, j'ai pas eu d'expérience raciste. J'ai dû avoir un ou deux dérapages de personnes que je connaissais. Mais sinon, dans la rue, on m'a jamais fait ni hao, ching chong ou des choses comme ça.
Non, mais, jamais. Les gens te faisaient ça, réellement? Enfin, du genre, ils te faisaient ni hao comme ça?
Bah ouais.
Du genre, ils te connaissaient pas?
Ouais. Mais en plus, j'ai l'impression, au bout d'un moment, j'étais... En France, quoi, j'ai l'impression qu'ils disent, ils faisaient ça parce qu'ils voulaient être sympas. Je sais pas, genre.
Non, mais genre, je connais ta culture, tu sais. Ouais, t'as vu, je suis super ouverte d'esprit.
Ouais. Mais aux États-Unis, non. Enfin, en tout cas, à New York, j'ai pas eu d'expérience comme ça. En termes de... J'ai eu des petits dérapages, par exemple, où je travaillais. Je crois qu'il y avait juste une autre asiatique. Et un jour, j'ai rencontré un vieux monsieur qui travaillait aussi dans où je travaillais. Enfin, où je faisais mes études, quoi. Et je m'en souviens, on avait... C'était avec une autre collègue. On avait dîné ensemble, etc. Et le lendemain, bah, vu que maintenant, on se connaissait... Je l'ai croisé, je fais « Ah, bonjour, comment allez-vous et tout ?» Et là, il commence à me dire un truc, je comprenais rien. Il me parlait d'un truc, genre « Ouais, est-ce que tu peux faire ça ?» blablabla. Et en fait, je crois qu'il m'avait confondu avec sa secrétaire ou son assistante, ou un truc comme ça.
Non, mais c'est l'horreur !
Et j'étais trop énervée. Et du coup, après, je pouvais même plus... En fait, mais ça, c'était quelques années après, quoi. Où j'avais déjà... J'étais plus en mode « Ouais, j'accepte plus les choses racistes. » Et du coup, après, je pouvais même plus lui parler, quoi. Parce que j'étais pas contente. J'ai eu un autre petit dérapage quand, bah là c'est là cette année qu'on était chez, en fait avec mon mari, on est allé acheter des meubles chez Ikea on vient juste de déménager là à Chicago et j'étais au Ikea et on regardait les choses, enfin des plantes ou les choses comme ça, et là à un moment il y a une dame qui arrive, elle me prend l'épaule quoi pour me faire retourner, et là elle me regarde et fait « Ah, désolée, je t'ai confondue avec ma fille adoptive. » Sa fille adoptive, c'était une Asiatique. Elle était juste à côté, je l'ai vue après.
Et mon mari... Genre, même pas les mêmes vêtements, même pas... Fin... Ouais, non. Non, mais c'est horrible.
Il était choqué, mon mari.
Oh, mon Dieu. Ouais, là, tu vois, ça m'agace, ce genre de comportement. Mais je me dis, et sa pauvre fille, quoi. Enfin, je sais pas, tu vis avec une personne comme ça?
Ben, c'est surtout ça. Moi, j'avais plus de peine pour sa fille. Quoi, non, mais... moi, la rigueur, je m'en fiche pour moi, mais c'est... Ouais, c'est incroyable. Hein.
C'est monstrueux. Donc, Mais de toute façon, l'adoption, il va falloir en parler aussi à un moment.
Donc, voilà. Mais aussi, autre chose que je me souviens, entre la transition de passer de la France aux États-Unis aussi, c'est que après m'être rendu compte que c'était pas normal, ce que j'avais vécu en termes de, au quotidien, les micro-agressions, on va dire, c'est que, voilà, c'était pas normal. Donc, je m'en souviens, la seule fois sans doute où j'ai répondu, en fait, parce que j'ai jamais vraiment osé répondre aux gens, parce que en fait quand tu reçois des microagressions, même si tu les reçois pendant des années, en fait t'es tout le temps un peu sous le choc, en fait, au moment où ça arrive t'es paralysée et tout,
ça fait un blackout, t'es en état de choc réellement,
et comme si en fait ton cerveau il fonctionnait plus quoi pendant et après c'est trop tard quoi, parce que la personne est partie, et en gros je me souviens, moi j'étais rentrée pour le nouvel an, je crois que c'était une année après. Je suis allée chez des amis pour une fête pour le nouvel an et tout, et c'était sympa. J'ai revu des amis de quand j'habitais en France, c'était cool. Et en même temps, il y avait des gens que je connaissais pas, et là, il y a un mec qui se rapproche et tout, et il vient me parler, ouais, salut et tout, donc cool. Et là, direct, la première question, ouais, tu viens d'où? Et là, je fais, je le regarde et tout, et je fais, ouais, je viens de Paris. Et il fait, ouais, mais non, mais tu viens d'où? Je fais, je viens de Paris. Il fait, non, mais tu sais, t'es pas... Là, genre, il voulait pas dire les mots, genre, il fait, ouais, t'as pas l'air d'une Française ou quoi. Et en fait, là, c'était la première fois où j'ai juste décidé, je vais pas lui dire.
Mais bien sûr.
Parce qu'avant, à chaque fois, c'était en mode, quand on me demandait, tu viens d'où? J'étais tout le temps, je suis Française, mais...
Ouais.
Autre chose, tu vois.
Tu te sens obligée, parce que sinon tu sais très bien en plus que la personne elle va pas lâcher l'affaire, quoi.
Et ben cette fois, c'était la première fois, j'ai pas lâché l'affaire.
Ouais. Bon,
du tout. En fait, en gros, je lui ai fait un petit peu une leçon de morale. Ouais, pourquoi t'as besoin de savoir mes origines, etc. Pourquoi ça te satisfait pas que je te dise que je viens de Paris, les choses comme ça. Et en fait, moi, de ce que je me rappelle à cette époque-là, avant de vraiment réfléchir au racisme, c'est que j'avais l'impression que j'avais plombé la soirée. J'avais fait la chieuse, en gros.
Et c'est un poids, en fait. C'est aussi une charge mentale de devoir faire attention à ce que tu dis pour que,
bah,
en
ouais,
plus, les personnes
carrément
qui t'agressent ne se sentent pas vexées.
Ouais. Je vivais aux États-Unis. C'est comme si j'étais plus en mode, je m'en fichais un peu plus, quoi. Mais c'est vrai qu'avant ça, j'aurais jamais osé. Jamais. En fait, t'as toujours l'impression que tu dois t'excuser de qui tu es.
Vous venez d'écouter la première partie de notre échange avec Isabelle. Vous pourrez retrouver la suite et fin de cet épisode le lundi 19 octobre.
Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles.
5,
ainsi
5,
que
5.
De partager autour de vous, que ce soit sur Twitter, Facebook...
Et sur Instagram, on est encore sur Instagram. Et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur, tout en attaché, @gmail.com.
À très bientôt, Ulrich.
En tout cas...
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.